À 8h38, c'est la revue de presse ce matin avec Xavier Domani. Bonjour.
Bonjour Xavier. Amélie, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez lu les journaux, ils ont un air d'été ce matin.
Oui, un air d'été avec le départ aujourd'hui de la grande boucle qui va, comme chaque année, occuper nos siestes de ce mois de juillet. Vous savez de quoi je parle. Le tour prend l'accent belge, nous dit le courrier Picard. Cette année, départ de Bruxelles avec un contre-la-montre. C'est l'histoire d'un Merckx, s'amuse le monde, car cette année, plusieurs anniversaires, et notamment celui de la première victoire du Belge Eddy Merckx, 20 juillet 69. La Belgique préfère son coureur cycliste à Neil Armstrong, qui posait en même temps, pour la première fois, le pied sur la Lune. Merckx est un personnage dont la grandeur est d'autant plus importante qu'il ne disait rien. Son silence a stimulé l'écriture de la légende, raconte l'universitaire Jean Cléder. Il a prouvé que Bruxellois, Wallons et Flamands ont encore un destin commun, assure par ailleurs Philippe Claus, le bourgmestre de Bruxelles dans la libre Belgique, quand le vélo réunit tout un peuple. Autre anniversaire cette année, celui du maillot jaune. 100 ans de convoitise et de folie. On lit dans l'équipe Mag que l'étoffe est tissée en Champagne, que le polyester a vite remplacé la laine, heureusement. Secret de fabrication d'un maillot made in France, contrairement aux autres, blanc et à pois, fabriqué au Portugal. L'équipe a d'ailleurs teinté ses pages de la couleur or ce matin et le quotidien sportif raconte cette première fois, le 11 juillet 1919, quand Eugène Christophe enfila le premier maillot jaune. Il est 2h du matin, nous sommes à Grenoble, au café de l'ascenseur. Le maillot jaune, indispensable symbole qui grandit, envoûte ou écrase celui qui le porte. Puissance romanesque d'un simple maillot.
Et ce tour, Xavier, pourrait bien être celui des Français.
C'est ce que nous dit la Provence. Le télégramme octroie également un permis de rêver aux coureurs français quand l'équipe Ineos, anciennement Sky, reste dominante mais sans véritable patron, titre l'écho de la Haute-Vienne. Chris Froome absent et Geraint Thomas de retour de blessure. Pinot et Bardet comptent bien en profiter, complète Sud-Ouest. Cela rebat les cartes, mais quelques cartes seulement, nuance le Parisien aujourd'hui en France. L'équipe Sky a, depuis 2012, remporté 6 des 7 derniers tours. Pour en finir avec le Tour de France, Télérama, une fois n'est pas coutume, parle aussi grande boucle à sa façon et nous raconte Guillaume Martin, cycliste philosophe. C'est sa troisième participation, diplômé d'un master de philo. Il est aussi l'auteur de Socrate à vélo et nous fait penser à Yannick Agnel, le nageur intello. On s'en étonnait presque à l'époque. Guillaume Martin développe une vision nietzschienne du sport de haut niveau, nous dit le magazine culturel.
Xavier Domani, aussi les vacances pour nombre de bacheliers.
Oui, quelques larmes parfois, mais surtout des sourires. En une, par exemple, du petit bleu d'Agen, celui de Maxime. Le jeune homme aux anges, il a eu 20 de moyenne à son bac S. Nombreux sont les quotidiens à publier ce matin dans leur page d'intérieur l'intégralité des résultats du bac. Le bac, malgré tout, nous dit le Dauphiné Libéré qui, comme Midi Libre, souligne les fausses notes de cette année. Les résultats sont tombés, mais pas la tension ni les polémiques, rappelle aujourd'hui en France. Certains élèves restent dans le flou à cause des notes provisoires. 5% d'entre eux, détaille le Figaro. Après la grève des notes, d'ailleurs, la rétention des copies, un prof raconte qu'aux oraux de rattrapage, il posera aux élèves la question suivante. Combien de points vous manque-t-il pour avoir votre bac et sera donc généreux dans la notation? Réponse à Jean-Michel Blanquer, accusé par ce professeur d'avoir cassé la grève, refusé toute négociation, passage en force, pression des jurys et un ministre plus que jamais en froid avec ses troupes. Ce n'est jamais bon de partir en vacances fâchées.
Et certaines luttes, elles, ne prennent pas de vacances.
Et on comprend pourquoi, tant l'enjeu est majeur et tant le compteur s'affole. 73 femmes ont été tués par leur compagnon ou leur ex-compagnon depuis le début de l'année. Ce soir à Paris, un rassemblement doit se tenir place de la République pour dénoncer l'inaction gouvernementale. Ce matin encore, l'Indépendant rapporte qu'une femme a été retrouvée morte, poignardée dans son appartement de Perpignan. Son compagnon est en garde à vue. Et à Toulouse, la Dépêche du Midi raconte qu'un homme a frappé son ex-femme cette semaine à coups de feuilles de boucher en présence de 3 enfants. L'homme avait déjà, il y a 2 ans, eu affaire à la justice pour des violences conjugales. L'État peine à empêcher ces meurtres de femmes, déplore le Figaro ce matin, et de citer Elisabeth Moiron-Brault. Elle préside la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences. Nous avons aujourd'hui tous les outils et l'arsenal nécessaires pour faire face à ce fléau. Encore faut-il les utiliser, dit-elle. Allez lire à ce propos sur franceinter.fr le décryptage d'une avocate qui travaille au quotidien sur les affaires de violences conjugales. Elle cite 3 exemples. Le système a montré ses failles, ses carences. Le cas de Sandra, par exemple, que des policiers auraient dissuadé de porter plainte. On lui a dit de faire attention que ses enfants risquaient d'être placés.
Pas de vacances non plus pour les Algériens qui protestent encore et toujours.
Images de femmes, pleine page dans Libé, des femmes qui manifestaient hier à Alger pour le 57e anniversaire de l'indépendance. Les Algériens, plus que jamais décidés à en finir avec le régime, titre Le Figaro qui explique. Les manifestants réclament le départ d'Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, qu'ils accusent de dérive autoritaire. « Nous avons peur que le pays devienne une dictature militaire », témoigne un manifestant. En Algérie ou ailleurs, la politique ne prend pas congé. Direction la Grèce. La Grèce encore pour quelques heures, celle d'Alexis Tsipras. Le Premier ministre a convoqué des législatives anticipées après son échec aux européennes. Et les journaux ce matin lui prédisent une cuisante défaite face au chef de file de la droite grecque, Kyriakos Mitsotakis, issu d'une dynastie politique bien établie.
Xavier, le Parisien aujourd'hui en France nous parle des devoirs de vacances d'Emmanuel Macron.
Tandis que Libération a suivi les nouveaux députés européens en pleine installation au Parlement de Strasbourg, tandis que la droite fait son introspection et recherche sa boussole perdue, ironise le monde, le chef de l'État lui prend du recul. Mais il a déjà la tête au municipal, nous dit donc aujourd'hui en France. Officiellement en retrait, le président surveille pourtant tout au détail près, croit savoir le quotidien. Et il n'a pas l'intention de boire le bouillon au municipal. Plus d'un col à gravir pour Emmanuel Macron qui ira prendre un bain de foule sur le Tour. Pour ses vacances, passera quelques jours en famille au fort de Brégançon début août. Et vous, où irez-vous? Où partez-vous? Si vous avez la chance et le budget de pouvoir prendre des vacances, Libé, tout en photo aujourd'hui, nous invite à plus de congés verts et en partant léger, avec moins de bagages par exemple, ou en allant moins loin. La découverte près de chez soi peut s'avérer tout aussi dépaysante. Un Colorado provençal dans le Vaucluse, un lac aux aires de Canada au cœur des Vosges, ou la dune toute saharienne du Pila à Arcachon, il suffit d'imaginer. Et de rêver.
Merci Xavier de Manila, revue de presse sur France Inter.